RCF.
Avec l'Euro qui se déroule en France, impossible d'échapper au football en ce moment. On sait que le pape François est lui-même grand amateur de football, il est fervent supporter d'un club de Buenos Aires. Et vous, Monseigneur, avez-vous le cœur lensois ou, à tout le moins, aimez-vous le football ?
Alors, quand on est évêque d'Arras, on ne peut qu'avoir le cœur lensois. J'avoue que je ne suis pas un grand passionné de football et que je ne suis pas très très compétent pour apprécier toutes les subtilités du jeu du football. Mais j'aime bien l'ambiance du football. Il m'arrive quelquefois d'aller au stade Bollard et bien sûr j'apprécie le spectacle qui est sur la pelouse, mais j'apprécie tout autant le spectacle qui est donné dans les tribunes. Et je pense que sur un stade de football, on vit de grands moments de convivialité, j'oserais pas dire de communion dans ma bouche, ce serait un peu excessif, mais en tous les cas, un beau moment de rapprochement entre les personnes et de défense d'une même cause. Soutenir une équipe, eh bien, c'est quelque chose de beau et c'est quelque chose qui peut être stimulant et donner un exemple pour d'autres occasions de rencontres et de travail en commun.
Monseigneur Lebrun, l'actuel évêque de Rouen, a cette particularité d'avoir été arbitre pendant 3 ans dans les années 80. Et vous, Monseigneur, si vous deviez vous employer sur un terrain de foot, seriez-vous gardien de but, défenseur, milieu de terrain, attaquant ou arbitre ?
Alors, vaut mieux pas être arbitre parce que mon cher confrère a dû se faire injurier plus d'une fois, sinon dans les mots, au moins dans les intentions. C'est ce qui arrive souvent aux arbitres. Oh, j'aimerais bien sans doute être celui qui met les buts, évidemment, celui dont on va parler, celui que l'on va encenser. Voyez-vous, ça ferait un peu de bien à mon ego de temps en temps, et je pense que ça ferait plaisir à tous ceux qui regardent et admirent les scènes que l'on voit au moment des buts en ce moment. Sont toujours des scènes de grande liesse et de grand enthousiasme, alors pourquoi pas, rêvons de mettre des buts.
Il y a tout de même quelques similitudes, j'imagine, entre un arbitre et la mission d'un évêque.
C'est vrai. Alors, pas par rapport aux injures. Je ne pense pas.
Certainement pas.
Je ne pense pas me faire injurier aussi souvent qu'un arbitre de football. Mais c'est vrai qu'il y a des missions analogues, puisqu'il faut rendre des arbitrages, au sens fort du terme, entre des points de vue divergents, des intérêts qui sont parfois inconciliables, des façons de voir dans l'Église, dans le monde, etc. Et il faut que l'évêque décide et qu'il permette précisément cette communion qui est indispensable à la vie en Église. Et c'est vrai que d'une certaine manière, un évêque est toujours un petit peu un arbitre, même si on l'imagine mal, avec un sifflet à la bouche.
Alors vous venez d'utiliser 2 fois le terme de communion, une fois en parlant de Bollard et une fois en parlant de votre rôle d'évêque. Est-ce que le sport et le foot en particulier véhiculent des valeurs qu'on pourrait qualifier de chrétiennes ?
Mais certainement. D'abord, une bonne équipe de foot doit compter sur la solidarité de tous ses membres et la cohésion. Parce que si chaque joueur veut jouer sa propre partie, ben il est probable que toute l'équipe va perdre. Et on sait bien qu'une des grandes difficultés des sélectionneurs et des entraîneurs, c'est précisément de faire en sorte que ce soit tous pour un, et que le jeu soit vraiment au service du groupe et de l'ensemble. Alors c'est vrai qu'il y a sans doute une similitude avec le travail d'un évêque.
L'expression de la foi est courante sur les terrains de foot. Un certain nombre de joueurs se signent, d'autres s'agenouillent. Et un phénomène sans doute plus nouveau est que pas mal de joueurs font leur coming out, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils se déclarent publiquement croyants. Est-ce que cela peut favoriser l'évangélisation ?
Alors ce serait sans doute un peu excessif, mais c'est beau de voir ces hommes qui effectivement n'hésitent pas, alors de façon peut-être un petit peu magique, mais n'hésitent pas à manifester leur foi en se signant. Et pour la première fois, j'ai vu ce midi, pas plus tard qu'aujourd'hui même, l'image d'un arbitre qui se signait, ce qui est assez rare. Mais que des hommes, eh bien, implore la protection divine pour le jeu et pour la qualité du jeu, on ne peut que s'en louer. J'espère bien quand même qu'il ne réclame pas quelques buts miraculeux qu'il ne méritait pas. Mais il faut reconnaître aussi que de temps en temps, certains buts ressemblent à de vrais miracles.
Alors, on parlait du vocabulaire chrétien, par exemple celui de communion. On peut en citer d'autres. On parle souvent de temple du football, ou lorsqu'une équipe a suffisamment de buts d'avance, les commentateurs ont coutume de dire que la messe est dite. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Comment expliquer cet emprunt au vocabulaire chrétien?
On entend même quelquefois dire qu'une équipe a crucifié l'autre.
Oui, c'est vrai.
Je pense que par une sorte de spontanéité qui n'est plus contrôlée par tout ce qui a été appris, tout ce qui a été inculqué, on a un vocabulaire spontané qui vient du plus profond de la personne et que les dimensions religieuses réapparaissent, j'allais dire, au-delà de toutes les censures que on pratique habituellement. Et c'est vrai que c'est un vocabulaire qui traduit une réalité qui est encore profondément ancrée dans le cœur, dans la vie et dans l'histoire des personnes, et que dans l'enthousiasme d'un moment, eh bien, ce sont sans doute ces mots et ces attitudes qui reviennent et qui rejaillissent. Effectivement, on n'est pas choqué, on n'est pas scandalisé de voir un joueur se signer, un joueur prier, alors que dans n'importe quel autre lieu public, on crierait à un attentat majeur contre la laïcité.
Alors, il y a aussi l'autre face. On présente quelquefois des footballeurs comme jouant comme des dieux. Certains footballeurs eux-mêmes se définissent un peu comme des dieux. N'y a-t-il pas le risque que de percevoir les footballeurs comme des idoles ou comme des divinités de substitution?
Alors c'est plus qu'un risque, je crois que cela arrive, ne serait-ce que par le ballon d'or quelquefois, mais aussi le prix d'or auquel on vend et on achète des joueurs, et puis peut-être aussi le montant de leur salaire, qui mettent ces hommes dans une situation tout à fait particulière et que personne d'ailleurs n'ose critiquer. Dans tout autre corps social ou toute autre profession, on critiquerait ce jeu de l'idolâtrie et ce jeu de l'argent, et que parce qu'il s'agit du football, on se garde bien de le faire. Alors, ceci étant dit, je ne vais pas faire reproche à ces hommes qui doivent beaucoup travailler et qui doivent sans doute travailler dans un temps limité de leur vie, mais nous sommes là effectivement devant une figure d'exception qui ressemble presque à du domaine religieux, même s'il est idolâtrique.
Alors, Monseigneur, le grand événement de la semaine, c'est bien sûr le Brexit et ses conséquences. Quel est votre sentiment à ce sujet?
Eh bien, je dirais un sentiment de tristesse, puisque je suis l'évêque français le plus proche de l'Angleterre, et de constater que l'Angleterre s'apprête à, le Royaume-Uni très exactement, s'apprête à prendre un peu de distance par rapport à l'Europe, voire même beaucoup de distance, c'est un peu triste parce que, même si les relations entre la France et l'Angleterre n'ont pas toujours été de l'ordre de l'entente cordiale, je pense que nous avons appris au fil du temps, au fil de l'histoire, à accepter les différences et la spécificité de l'Angleterre qui est toujours étonnante, mais qui ne manque pas de charme et d'intérêt. Et j'espère bien que cette décision n'aura pas de trop lourdes conséquences, d'abord pour l'Angleterre elle-même, puisque on sait bien que la décision qui a été prise par voie de référendum est contestée à l'intérieur même du pays. Et puis je souhaite qu'on puisse quand même garder des relations les plus étroites possibles et faire en sorte que notre Europe, un peu avertie par cette défection de l'Angleterre, tire toutes les leçons et sache aussi bien se renforcer et retrouver un élan pour être vraiment un continent au service des hommes et des femmes et au service de valeurs communes susceptibles de mieux nous faire vivre ensemble dans la solidarité et dans le partage.
Cette sortie annoncée de la Grande-Bretagne de l'Union européenne peut-elle avoir des conséquences sur Calais, sur la situation des migrants?
C'est possible et même probable. On verra bien dans les temps qui viennent si il y a un déplacement nouveau de la frontière, c'est-à-dire remettre la frontière et les contrôles du côté de l'Angleterre plutôt que du côté de la France, avec d'ailleurs beaucoup de questions par rapport à cette éventuelle décision, parce que l'Angleterre est une île, enfin du moins c'est comme ça que je la vois. Et puis une île peut toujours refuser l'accès à son territoire beaucoup plus facilement qu'un continent sans doute. Et à mon avis, ça ne résoudra pas de toute façon le problème de fond. Et je crois que le problème de l'immigration ne va pas simplement être résolu parce qu'un pays quitte l'Union européenne.
Alors, Monseigneur, si ce n'est pas indiscret, quel est votre programme des 2 mois qui viennent, ces mois d'été?
Alors, il y a toujours le mois de repos annuel, ce qui est toujours au mois de juillet, puisque le mois d'août me prend beaucoup de temps dans le diocèse et que je le consacre essentiellement à la Vierge Marie. Et donc, il y aura le temps du repos, le temps avec les jeunes pour les Journées mondiales de la jeunesse, en partie.
Est-ce que
Et
vous serez en Pologne?
alors, au moins un moment. Et ensuite, eh bien, tous les différents pèlerinages du diocèse, le pèlerinage à Lourdes au mois d'août, le deuxième pèlerinage, les fêtes autour du 15 août, la procession en l'honneur de Notre-Dame Panetière à Aire-sur-la-Lys, la procession en l'honneur de Notre-Dame de Boulogne, avec la participation du cardinal 23. Et puis, pour terminer, l'ouverture vers Saint-Benoît-Joseph Labre. Voilà de quoi nous occuper largement.
C'est un mois que vous aimez particulièrement, je crois, ce mois d'août.
Oui, bien sûr, c'est le mois de Marie, le mois qui me permet d'entraîner les fidèles à prier la Vierge Marie qui est très honorée dans le Pas-de-Calais.
Bien, nous vous souhaitons un bel été, Monseigneur, un bon repos et de beaux pèlerinages.
Voilà, et eh bien merci, puis j'espère vous retrouver à cette occasion.